Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour à tous, mais d'abord les titres de ce journal. Des violents combats opposent ce samedi les rebelles de l'AFC M23 à une coalition des miliciens Wazalendo alliés au FARDC dans plusieurs villages du territoire de Massissi. Plusieurs sources concordantes affirment que ces affrontements se concentrent notamment en été dans la localité de Mohanga en groupement Boabou. La zone de santé d'Isangi dans la province de la Tchopo en proie d'une double épidémie meurtrière. La rougeole et les mpox, elles ont déjà causé quelques décès. Faute des moyens logistiques et thérapeutiques, les autorités sanitaires se tournent vers le gouvernement ainsi que vers les partenaires. L'invité de ce journal est M. Kangolingoli, l'un des fondateurs de l'ASBL qui s'intéresse à la problématique des enfants de la rue à Bukavu. Son mouvement Bloc Citoyen Amani fait mention des 1300 enfants vivant dans la rue de Bukavu, résultat de leur enquête. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au Nord Kivu, des violents combats opposent depuis tôt ce samedi le rebelle de l'FC M23 à une coalition des miliciens Wazalendo alliés au FARDC dans plusieurs villages du territoire de Massissi. Selon des sources concordantes, les affrontements se concentrent notamment en été dans la localité de Mohanga en groupement Boabo. D'autres accrochages sont en cours à Machaki, dans le groupement Nyamaboko Premier, ainsi qu'à Lukole, dans le groupement des Banyungu. Les détails avec Richard Junior Kamunga.
C'est depuis 5 heures du matin que des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus dans ces trois villages du secteur Osso-Banyunga, rapporte des sources locales. Selon elles, les miliciens Wazalendo auraient lancé des attaques simultanées dans l'objectif de reprendre ces localités récemment récupérées par les rebelles des AFC M23 au cours de la semaine dernière. Ces derniers affrontements surviennent au lendemain d'autres violentes hostilités signalées à Kinyumba, dans les périphéries de Nyabiondo, en groupement Banyunga, mais aussi une grande partie de la nuit dernière à Bukiri, près de Lucheberé, dans le groupement de Boabo. D'après nos sources, une position tenue par AFC M23 aurait été incendiée par les Wazalendo à Bukiri. Nos sources font également état d'une attaque aérienne menée par un drone militaire qui aurait visé un convoi des AFC M23 vendredi soir sur l'axe Mushaki-Rubaya. Aucun bilan n'est encore disponible. Après plus de 10 jours d'affrontements continus, cette partie du territoire du Massissi traverse une crise humanitaire alarmante. Plusieurs villages se sont vidés déjà de leurs habitants, fuyant les combats.
Province du Tanganyika, un cas de justice populaire s'est produit ce jeudi dans la commune Lukwaga, à Kalemie. Des témoins rapportent que la victime accusée de vol de sexe d'une personne a été lynchée par la foule. La maire adjointe de Kalemie appelle la population au calme et à ne céder à la manipulation face à ces rumeurs infondées. Le point avec Paul Munanga.
D'après des sources locales, l'incident s'est produit ce jeudi aux environs de 19h au quartier Joseph dans la commune Lukuga, ville de Kalemie. Un homme a été accusé par la population d'être impliqué dans un présumé cas de vol de sexe, une rumeur qui circule dans plusieurs quartiers de la ville de Kalemie depuis quelques semaines. Les mêmes sources indiquent que la situation a rapidement dégénéré sur place après qu'un jeune garçon ait alerté les personnes présentes, affirmant avoir été victime de la perte de son sexe. Dans la confusion, la population en colère s'en est pris à la personne accusée qui a succombé suite à ses blessures. La maire adjointe de Kalemie appelle la population au calme et à ne pas céder à ces rumeurs. Karine Muteta.
Personnellement, je me suis dit de faire la descente partout là où on déclarait qu'il y a des cas qui étaient vraiment réels. Quand je suis descendue à la police, j'ai trouvé 3 personnes qui déclaraient que leur sexe était parti. Mais j'ai vu de mes propres yeux les 3 sexes de ces 3 personnes, chacun avec son sexe, ça prouve réellement que c'est une fausse information.
La police est intervenue sur les lieux et a procédé à des arrestations de plusieurs jeunes impliqués dans cet incident. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Je le disais tout à l'heure, la situation sanitaire dans la zone de santé d'Isangi est devenue critique. Cette entité fait face à une double épidémie meurtrière, la rougeole et les mpox. Ces 2 pathologies qui se propagent simultanément, ont déjà causé quelques décès au sein de la population locale. Faute de moyens logistiques et thérapeutiques, les autorités sanitaires se tournent vers le gouvernement ainsi que vers les partenaires. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Sur les 25 aires de santé que compte la zone, 4 sont actuellement frappées de plein fouet par la rougeole. Le bilan depuis la première semaine épidémiologique fait état de 80 cas enregistrés, dont un décès. Selon le docteur Charles Koyumoke, médecin chef des zones, la cible principale du virus reste la plus petite enfance.
La femme n'a pas été protégée à partir de 9 mois par rapport à notre calendrier vaccinal. Il peut contracter facilement la rougeole et développer de formes graves qui peut l'amener même jusqu'à la mort.
En parallèle, le Mpox inquiète également les autorités. À ce jour, 23 cas ont été notifiés, dont un décès. Pour l'heure, l'épidémie semble localisée. Elle ne sévit que dans l'aire de santé de Weko, plus précisément au village Nganzi. Face à cette double menace, le MCZ demande une intervention urgente du gouvernement et de ses partenaires pour l'envoi de moyens logistiques et thérapeutiques. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Une lueur d'espoir pointe toutefois à l'horizon avec une première réaction humanitaire sur le terrain. La première réaction vient d'être enregistrée, l'arrivée à Isangi de MSF Suisse. Cet organisme humanitaire est venu en mission pour la prospection et la confirmation des cas de rougeole. D'ici là, elle pourrait peut-être intervenir. Restons dans le secteur de la santé pour dire que le ministère provincial de la santé de Maniema organise les journées locale des vaccinations contre la poliomyélite à partir de ce samedi 28 février au 1er mars 2026. C'est suite aux 3 cas de poliomyélite notifiés cette année 2026 et 5 autres de l'année 2025. Ces activités de 3 jours de vaccination sont organisées avec l'appui des partenaires comme Initiative mondiale pour l'éradication des poliomyélite qui cible 691 011 enfants de 0 à 59 mois. La stratégie est de porte à porte avec 2 jours de ratissage. Les parents sont appelés à bien préparer leurs enfants pour être vaccinés afin de renforcer leur système immunitaire. Florence Kizalunga, reportage.
Ces activités de riposte vaccinale qui visent à interrompre ou à arrêter la circulation de la poliomyélite dans la province sont constituées d'une équipe bien formée pour cette fin, déclare Dr Faustin Bekonda, chef de division de la santé.
Pour cette campagne, 2318 équipes de vaccination et 1180 superviseurs de proximité sont déjà sur le terrain. Tous ces acteurs de mise en œuvre pour cette campagne devront mettre en application les mesures barrières afin de limiter la propagation des Mpox, des maladies à virus, Ebola et le choléra.
Les partenaires qui se tiennent aux côtés du gouvernement pour la réalisation de cette mission appellent à la responsabilité des intervenants et des parents.
Aux acteurs de terrain, les agents de santé, des volontaires, tous, nous vous félicitons et encourageons pour votre professionnalisme et vous exhortons à plus d'abnégation au travail tout au long de ce passage de vaccination contre la poliomyélite. Aux parents et aux leaders communautaires surtout, je vous encourage à mobiliser et à rassurer les familles afin d'adhérer massivement aux activités qui seront déployées.
Pendant cette campagne, il sera aussi question d'enregistrer tous les enfants qui sont en conflit avec les calendriers vaccinaux afin qu'ils complètent leur calendrier. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
La maîtrise de l'inflation, la soutenabilité des finances publiques et la stabilité du secteur bancaire, autant de questions au centre des discussions de la réunion des gouverneurs des banques centrales d'Afrique centrale. Des assises organisées ce vendredi 27 février à Kinshasa sous l'égide de la BCC dans le cadre de l'association des banques centrales africaines ABCA. Prenant la parole à la clôture de ces assises en qualité de président en exercice du comité sous-régional Afrique centrale de cette association, le gouverneur de la BCC André Wameso a souligné que l'intégration économique et monétaire constitue un levier déterminant pour la transformation structurelle des économies d'Afrique centrale. Gassam Zati pour les détails.
Selon une dépêche de la BCC parvenue à Radio Kapi ce vendredi, cette rencontre a été précédée par 2 jours de travaux des experts qui ont évalué la mise en œuvre des décisions de la 47e réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs au niveau de la sous-région Afrique centrale. Ils ont examiné la mise en œuvre du programme de coopération monétaire en Afrique centrale ainsi que l'état des lieux du programme d'harmonisation du cadre de la politique monétaire au sein de la sous-région. Selon la même source, les délégations de la Banque des États de l'Afrique centrale, de la Banque centrale de São Tomé et Principe ainsi que de la Banque centrale du Congo ont procédé à une appréciation rigoureuse des avancées réalisées dans le cadre du programme de coopération monétaire en Afrique centrale. Les échanges ont porté sur le niveau de convergence des indicateurs macroéconomiques, la coordination des politiques monétaires et le renforcement des mécanismes de surveillance financière et régionale. Il est à noter que les gouverneurs des banques centrales ont réaffirmé leur engagement à poursuivre l'alignement progressif des instruments de politique monétaire et des dispositifs de supervision financière. Les gouverneurs ont par ailleurs arrêté les thématiques prioritaires du séminaire continental et du symposium des gouverneurs prévu en 2026, en rapport notamment avec la stabilité financière à l'ère de la digitalisation, l'inclusion financière et l'innovation technologique, l'intégration monétaire africaine et la consolidation de la souveraineté financière du continent.
Ces travaux de Kinshasa marquent une étape significative dans le renforcement de la coopération entre les banques centrales d'Afrique centrale. Elle traduit la volonté partagée de construire une architecture monétaire régionale plus stable, coordonnée et orientée vers le développement. Dans un autre registre, le président du Sénat, Samalou Kondé, exprime sa satisfaction quant à l'avancement du projet Kasomeno-Kasenga-Chaloué dans le Haut-Katanga. Il a effectué jeudi 26 février une visite de terrain sur ces chantiers supervisés par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. Sur place, Samalou Kondé a constaté l'évolution des travaux de réfection du pont Obané, jeté sur la rivière Luapula, ainsi que l'avancement du revêtement de la route dont la pose de la couche des bases a déjà commencé. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
En vacances parlementaires dans le Haut-Katanga, le président du Sénat a visité la route Kasomeno-Kasenga-Chwale, une nouvelle voie transfrontalière qui reliera bientôt la RDC à la Zambie. Sous la conduite du directeur provincial de la CGT Katanga et avec la collaboration des concessionnaires GED Congo ainsi que des sous-traitants CCSC, Rankin et Kairos qui suivent au quotidien l'évolution du chantier, Samalou Kondé a noté que le projet est dans une phase de développement prometteuse. Le numéro 1 de la chambre haute du parlement a tour à tour visité pont Obané, la base vie des équipes techniques chinoises, puis les 10 km de route actuellement en cours de revêtement avec la couche des bases. C'est avec assurance et satisfaction qu'il s'est adressé à la presse saluant l'engagement de toutes les parties impliquées dans ces projets. La route Kasomeno-Kasenga-Chwale permettra de réduire de 250 km les trajets des camionneurs se rendant à Dar es Salaam par rapport au passage de Kasumbalesa. Toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour permettre une livraison du projet en mai 2027.
Province de l'Ituri à présent, résister à l'agression, protéger la population et engager des projets de développement, telle est la vision du chef de l'État. C'est ce qu'a déclaré vendredi à Bounia le président de l'Assemblée nationale en visite de quelques heures dans les chefs-lieux de la province de l'Ituri. Au cours de ses brefs séjours, Aimé Boji Sangara a visité plusieurs infrastructures financées par le gouvernement congolais, notamment la voirie urbaine, l'aéroport de Bounia ainsi que l'université de Bounia. Il s'est déclaré satisfait de l'État d'avancement de ses ouvrages. Un extrait de sa déclaration au tarmac de l'aéroport de Bounia a été sélectionné par Jean-Claude Lokidile.
Je suis agréablement surpris. C'est pas la première fois que j'arrive ici à Bounia, mais cette fois-ci, j'ai atterri sur une piste exceptionnellement bien faite. Je n'ai pas senti la différence avec des pistes d'autres pays développés ou des pays asiatiques. Ça reflète l'optimisme qui est le nôtre. Cela démontre que le Congo, c'est un pays qui sait rester debout malgré les difficultés. Le peuple congolais est résilient et tous derrière le président de la République, nous sommes convaincus que nous allons vaincre le combat du rétablissement de la paix et celui du développement. C'est ce que cet aéroport symbolise au fait, les deux ensemble. Nous sommes en pleine zone opérationnelle, mais en même temps nous avons une belle œuvre aux normes internationales qui est accomplie et qui va amener à contribuer au développement de tout cet espace. C'est extraordinaire. Et je viens du Nord Kivu, c'est pareil, ils sont en pleine construction d'un aéroport et plusieurs chantiers au niveau de routes urbaines.
Au Kasaï Oriental, l'entreprise Safrimex, chargée de réhabiliter et moderniser les routes du Kasaï Oriental, a livré officiellement ce jeudi à l'Office des voiries et drainages OVD, 35 km de la voirie urbaine de Mbujimayi, réhabilité
asphaltée avec le marquage au sol et éclairée après 36 mois d'exécution des travaux. Un procès verbal de réception a été signé entre l'entreprise Safrimex et Sarel, les 5 missions de contrôle, les chefs des divisions des travaux publics et infrastructures, ainsi que le représentant du gouvernement provincial. Ingénieur Freddy Mboma, directeur du département technique à l'office des voiries et drainages OVD, le maître d'ouvrage s'est dit satisfait car les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de contrat en quantité et en qualité. Ingénieur Freddy Mboma s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Les premières impressions que nous avons, c'est vraiment insatisfaisant parce que les ouvrages que nous livre aujourd'hui l'entreprise Safrimex, sous l'accompagnement de toutes les missions de contrôle ainsi que de notre direction provinciale, ont répondu à toutes les sollicitations et nous disons merci pour ces ouvrages de qualité. C'est une œuvre humaine, il n'y a pas de perfection. On a vu avec l'inspection visuelle qu'il y a quelques points qui nécessitent qu'une attention soit soutenue de manière à ce qu'on améliore pour donner encore un bon résultat. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des formalités administratives. Dès que le prononcé est fait, ça veut dire que l'entreprise se décharge de la responsabilité momentanée de ses ouvrages. Il va falloir que l'OVD puisse prendre le relais pour pouvoir inscrire ce projet dans les travaux avec le programme du Fonds national d'entretien routier.
Ici à Kinshasa, des politologues, des journalistes ainsi que des organisations de la société civile ont dressé le vendredi 27 février un état des lieux de la liberté d'expression et de l'exercice du journalisme en période de guerre en RDC. Organisé par la dynamique des politologues de la RDC Dipol en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert, cet atelier a permis aux intervenants de mettre en évidence le nombre de défis qui entrave la liberté d'expression et la pratique journalistique en temps de conflits, notamment la violence directe et menace contre les professionnels des médias, une censure de l'État ou des rebelles. Vanessa Kongolo en Kongolo.
Dans le contexte de la guerre en RDC, la dynamique de politologues d'IPOL en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert ont réuni politologues, journalistes et organisations de la société civile pour réfléchir à l'équilibre entre liberté d'expression et impératif de sécurité. Christian Dobomoleka, coordonnateur de d'IPOL.
Dans un contexte qui est très critique et tout le monde connaît dans l'environnement dans lequel nous vivons, et particulièrement comment dans ces contextes-là, autant on travaille à maintenir l'espace démocratique ouvert dans un environnement très porté par tout sécuritaire, mais comment en même temps, on responsabilise chaque partie, que ce soit l'État, les citoyens, les journalistes, les activistes, parce qu'il y a une responsabilité dans la prise de parole. Quand on prend la parole, il y a derrière une responsabilité dans ce que l'on dit, mais il y a également une responsabilité publique dans la protection de l'environnement.
À l'issue de cet atelier, le journaliste Marc Gardédien a souligné les rôles clés de la culture dans l'exercice de la liberté d'expression en RDC.
La culture aujourd'hui est tout autant importante. Ce qui justifie les faiblesses dans les résultats, c'est qu'on veut imposer une liberté d'expression, mais dans la liberté d'expression, la finalité, c'est d'avoir un débat public de qualité. Or, il faut commencer par veiller sur la qualité. Dès lors qu'on sait que les contenus sont de qualité, la liberté va de soi.
Notons que tous les intervenants ont rappelé les lois garantissant cette liberté, mais ont aussi identifié plusieurs défis, notamment les violences et menaces envers le professionnel de médias, censure étatique ou exercice par le groupe rebelle, désinformation massive et restrictions légales justifiées par la sécurité nationale.
Actualité internationale.
Le Congo-Brazzaville lance officiellement samedi 28 février la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 15 mars censée durer 2 semaines. En lice, 7 candidats, notamment le président sortant Denis Sassou Nguesso, 82 ans, dont plus de 40 ans au pouvoir. Il va affronter 6 autres personnes lors de ces scrutins, la plupart sans envergure. Les principaux partis d'opposition ne prennent pas part au scrutin.
L'invité.
L'invité de ce journal est Monsieur Kangolingoli, l'un des fondateurs de l'ASBL qui s'intéresse à la problématique des enfants de la rue à Bukavu. Son mouvement Bloc Citoyen a manifesté mention de 1300 enfants vivant dans la rue de Bukavu, résultat de leur enquête. Kangolingoli s'entretient avec Jean Kassami.
Bonjour monsieur le responsable du bloc citoyen Amani.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous venez de mener des enquêtes sur la situation des enfants de la rue à Bukavu. Combien sont ces enfants que vous avez pu identifier?
C'est en mesure pour moi d'étaler la situation des enfants se trouvant dans la rue de Bukavu, communément appelée les enfants de la rue. Nos enquêtes menées relèvent qu'il y a 13 000 enfants se trouvant dans la rue de Bukavu, dont 650 enfants en situation de détresse et risquent d'attraper la folie.
Et dans quelle partie sont-ils localisés?
Beaucoup de ces enfants-là se trouvaient dans la commune d'Ibanda. Un nombre important se trouve dans le marché du Nyawera, d'autres se trouvent à Major Vango. Mais il y a aussi un grand nombre d'enfants qui se trouvent à Machinjou dans la commune de Kadout. Et donc, la majorité de ces enfants vraiment se trouvent à Machinjou, d'autres se trouvent à Nyawera et d'autres se trouvent à l'endroit appelé Major Vang. Sont là les trois points chauds où se trouvent ces enfants-là de la rue.
Souvent, les centres de réinsertion se plaignent de recevoir ces enfants et au bout d'un certain temps, les mêmes enfants redisparaissent. Qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis pour que ces enfants soient pleinement intégrés et qu'ils apprennent les métiers auxquels les centres leur prédisposent au lieu de chercher à revenir dans la rue?
Il est trop aberrant de s'attaquer aux effets sans pour autant s'attaquer aux causes. Ces enfants se sont retrouvés dans cette situation suite aux causes suivantes. Il y a d'abord la pauvreté des parents, il y a aussi l'acquisition d'une manière abusive et fausse de ces enfants de la sorcellerie, ce qui est contraire à l'article 44 de la Constitution, parce que cet article-là stipule qu'aucun enfant ne peut être accusé de la sorcellerie. Alors, même si ces organisations s'adonnent de réinsérer ces enfants, de leur apprendre certains métiers, après un certain temps, ces enfants-là peuvent être retournés dans leur famille biologique, mais après le résultat de nos enquêtes, nous avions constaté qu'il y a au moins 700 de ces enfants là-bas qui étaient acquisés de la sorcellerie. Et même si on les renvoyait dans la famille là n'allait pas accepter que ces enfants là puissent revenir avec cette fausse image, cette fausse idée d'imputer faussement la sorcellerie à ces enfants. Et c'est pour cela que nous alertons fortement les organisations qui milite pour les droits des enfants, de faire quelque chose de plus urgent pour que ces enfants-là puissent être considérés comme tant d'autres enfants. Le résultat aussi relève que si rien n'est fait dans l'urgence, nous risquons de doubler ce nombre-là d'ici la fin du mois de juin. Parce que ces enfants sont de plus en plus susceptibles à des exploitations sexuelles. Au moins 600 de ces enfants là-bas sont devenus mères et ces enfants sont âgés de 14 à 16 ans. Imaginez-vous un enfant de 14 ans qui est déjà mère ou parent, c'est compliqué. Alors, c'est un danger déjà pour la société et d'autres se sont livrés dans des pratiques de prise de boissons fortement alcoolisées. Il y a aussi d'autres qui se tournent vers la délinquance. Ils sont devenus voleurs et d'autres sont tués et d'autres connaissent des accidents de circulation parce que surtout dans des heures vespérales, les enfants là se mettent dans la rue en train de voler et certains d'entre eux sont frappés jusqu'à la mort, d'autres sont frappés et ils sont échappés de justesse et avec tout ça ce sont de vies humaines qui sont en train d'être sacrifiées, abandonnées à leur triste sort. Monsieur le journaliste, j'ai dit.
C'était donc notre invité Kangolingoli qui s'entretenait avec Jean Kassami et c'est ce qui met fin à ce journal coordonné et supervisé par Richard Junior Kamunga et mis en ordre par Alain Goy. Ce journal est disponible sur notre site internet www.radiocapi.net.